Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le catch et qui résume et analyse tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, cher peuple de Catch Up, nous nous retrouvons pour le Monday Night Raw du 7 août 2023 au cœur de l'été, juste après SummerSlam. Je suis Giscal et je suis accompagné aujourd'hui de mon comparse d'il y a quelques jours de SummerSlam, mon très cher papy. Comment vas-tu, papy?
Bonjour, petits enfants, bonjour Giscal, mais oui, ça va et toi?
Écoute, ça va très très bien, nous enchaînons, c'est l'heure de voir le fallout de SummerSlam, les retombées de SummerSlam. Comment est-ce que la WWE a décidé de mener son mois d'août et ce qui va nous amener à la rentrée? Quels sont les nouveaux programmes? Quelles sont les conséquences de tout ce qui s'est passé à Détroit dans la Motor City? On va découvrir ça ensemble.
Ça en fait un gros truc pour.
Eh bien oui, beaucoup d'enjeux, beaucoup de questions. Et donc, le début des réponses donc au Target Center de Minneapolis, dans le Minnesota. Et déjà, première nouveauté, Michael Cole et Wade Barrett sont aux commentaires, puisque oui, il y a eu un switch, un shake-up des commentateurs. Vous avez peut-être suivi ça sur les réseaux ou sur notre Discord. Michael Cole et Wade Barrett sont arrivés à Raw. Et en fait, Michael Cole, il reste aussi à SmackDown, double duty pour le vétéran, pour le taulier, puisqu'il coachera les petits genoux Corey Graves et KP, Kevin Patrick, qui partent à SmackDown. Un petit mot sur ce petit shake-up, qu'est-ce que ça t'inspire?
C'est ce qui est étonnant, c'est que finalement, comme tu dis, la seule nouveauté, c'est que Michael Cole va du coup superviser les deux autres, mais c'est marrant que du coup, il ne l'ait pas envoyé lui directement à Raw et garder sa place à SmackDown. Alors peut-être que juste c'était changé pour changer, ou peut-être qu'il ne voulait pas que ça fasse vraiment trop nourrice, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que Michael Cole a de l'expérience à revendre et à partager auprès de ses collègues. Hein.
Eh ben oui, écoute, on espère que peut-être Kevin Patrick, que je déteste, va peut-être finir par prendre son envol, parce que jusqu'ici, il était plus sauvé par Corey Graves qu'autre chose, mais on va voir ce que l'influence de Michael Cole lui fera. En tout cas, nous, on est à Raw, et à Raw, qui est-ce qu'il y a? Il y a Cody Rhodes, un autre taulier, on parlait de taulier, le taulier qui ouvre le show. Et qui vient nous parler de sa victoire face à la bête. La bête qui l'a acknowledge. Hein. Le mot est lâché d'ailleurs hein, par Cody Rhodes, pas forcément innocent, c'était assez amusant. Donc voilà, il dit que Lesnar lui a serré la main et l'a acknowledge après le match. On se souvient en effet de cette fin de match très inattendue avec un Brock Lesnar qui fend l'armure et qui finalement voilà, prend dans ses bras Cody Rhodes. Cette trilogie est maintenant derrière nous, et derrière Cody, qui donc s'auto-congratule, hein. Il est très, très très heureux évidemment de son SummerSlam, et il dit que maintenant voilà, il est prêt à passer à autre chose, à se tourner vers des horizons plus élevés, et qu'il peut battre tout et n'importe qui, et ça, il n'en fallait pas plus pour faire venir Seth freaking Rollins, qui interrompt le speech de Cody Rhodes à ce moment précis. La musique, les chants du public, mais assez vite coupé par Seth Rollins qui dit « Ah, tiens, intéressant, mais ce « I can beat anyone hein, »,« je peux battre n'importe qui », testons cette théorie. Ça sent un peu le roussi entre les deux, qui ont évidemment un passif énorme, hein, et on se doutait que leur chemin allait se recroiser tôt ou tard à Raw. Sauf que le Judgment Day arrive à ce moment-là, le Judgment Day qui décide d'intervenir pour participer un petit peu à cette petite intro. Alors tout le monde est là, sauf Finn Balor, détail intéressant, puisque Finn Balor, qui a perdu son match pour le titre à SummerSlam contre Seth Rollins, n'est pas là. Donc le Judgment Day qui a le bon rôle de rappeler quand même que c'est eux qui décident ce qui se passe pour les ceintures, c'est eux qui gèrent Monday Night Raw, hein, grosso modo, le Real Workhorse, alors le vrai cheval de trait, alors je sais pas comment on traduirait ça en français, mais voilà.
La locomotive, le
worker ultime, hein, c'est pas Seth Rollins, hein, c'est Dominic Mysterio, c'est lui, donc Dominic Mysterio qui essaye de... qui essaye de faire sa promo, mais qui est évidemment immédiatement hué. Et c'est à ce moment-là que Finn Balor, bah lui, bah voilà, celui qui manquait, intervient, arrive à travers la foule et commence à vouloir taper sur Seth Rollins. Donc là, c'est le bordel qui démarre, puisque 4 contre 2, mais il fallait un equalizer, et c'est Sami Zayn qui sort de sous le titantron et qui court dans le ring pour essayer d'égaliser pour les gentils. Et donc ça se transforme en brawl un petit peu général, mais les gentils font globalement assez vite place nette. Et Cody Rhodes qui reprend le micro pour dire Judgment Day, ok, vous êtes marrant, mais regardez, on est trois, vous êtes trois, avec Mamie évidemment à côté, ça vous dirait d'aller qu'on se retrouve dans le main event. Donc voilà, le défi est lancé, et on retrouvera tout ce beau monde un petit peu plus tard dans l'émission. Donc bon, écoute, une intro somme toute assez classique, avec un petit peu de promo, un petit peu de bazar, et on boucle le main event. Qu'est-ce que tu as pensé de cette entrée en matière d'Euro?
Ah ouais, sur la partie booker le main event en live sur l'intro, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est effectivement le méga classique. Bon, à la limite, je vais revenir plus sur un point qui m'a interpellé un peu, c'est que le show était ouvert par Cody Rhodes, finalement, alors qu'on a un champion du monde qui vient de conserver sa ceinture la veille au pay-per-view. Normalement, c'est plutôt la tradition. Alors, la tradition, c'est surtout quand tu changes de ceinture pour annoncer le nouveau champion. Mais bon, quand tu as un champion qui vient de défendre sa ceinture, la tradition veut quand même que ce soit lui qui ouvre et pas un mec qui a fait un match sans enjeu, en fait, finalement. Donc, ouais. Je pense que ça conditionnera un peu la suite de l'épisode à ce niveau-là, parce que on a le fameux Cody qui se met directement au-dessus de tout le monde, un peu comme il est fait à l'époque quand il y a eu... Je sais pas si tu te souviens, avant le match Sami Zayn contre Roman Reigns, où il disait « Ouais, c'est bon, mon petit, je suis avec toi, vas-y, mon gamin, allez, vas-y. » Et puis moi, je l'affronterai à WrestleMania quand tu auras perdu. Bah, là, c'est un peu le truc, tu vois, c'est « Ouais, allez, hein, bienvenue, c'est Frolis, t'es un beau champion. Hein. » Bon, par contre, c'est moi qui ouvre, on va laisser le pro faire, quoi. Donc, c'est toujours cette position de Cody qui se met un peu au-dessus. Moi, je trouve que c'est toujours particulier comme face, mais bon, c'est un point de vue perso et ça marche toujours aussi bien auprès du public. Il n'y a pas de sujet, et c'est vrai que je me faisais la réflexion quand tu as l'affiche finale des trois faces dans le ring, c'est que c'est vraiment les trois méga faces du moment qui étaient réunis. Donc c'est une bien belle photo.
En effet, c'est vraiment. C'est vrai qu'on avait un petit peu le All-Star Game de Raw. Hein, c'est vraiment les trois giga faces de Monday Night Raw contre le top groupe de heel qui a le vent en poupe, qui domine les écrans depuis maintenant quelques mois. Donc vraiment, voilà, on avait la scène du main event de Raw rassemblée. Mais je suis d'accord avec toi, je m'étais fait un peu la même réflexion. C'est Cody Rhodes qui ouvre. C'est clairement pas anodin. Hein. C'est le patron. On le sait depuis quelques temps. Il a beau ne pas se battre pour le titre, ne pas avoir de ceinture autour des reins. Tu sens que... quand il arrive, c'est toujours la partition du chef d'orchestre, un petit peu, qu'on lui donne toujours. Il y a eu pendant tout un moment, pendant les derniers mois, on avait vraiment l'impression parfois de voir John Cena dans le ring, hein, parce qu'il arrivait en milieu de show, généralement au top de la première heure, qui est souvent un petit peu le pic de l'émission. Il arrivait, il faisait sa petite promo, il avait son match, il roustait un mid-quart d'heure, et puis derrière, il prenait le micro, il dit « Bon, voilà, allez, merci à tous et ciao. »
Bonne soirée.
Et bonne soirée. Donc, c'est bon, bah voilà, là, il le fait en intro, mais oui, clairement, c'est pas si anodin. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, la réaction de Seth Rollins reflète un petit peu ça, hein, parce que tout de suite, c'est lui qui interrompt, alors que c'est lui le champion, mais parce qu'il se sent, d'une certaine manière, un peu provoqué, menacé, ne serait-ce que par le simple discours d'ouverture de Cody Rhodes qui ne provoquait encore personne. Et hop, tout de suite, c'est le champion piqué au vif. Donc c'est tout ça n'est pas, en effet, sans doute anodin. Mais on retrouvera tout ce beau monde un petit peu plus tard. Et on va avoir un second, le second groupe, le groupe Eto, qui va suivre. Après le groupe du main event, on a eu le bloc de la mid-card, puisque nous avions... une petite passe d'armes backstage entre tout un tas de gars de Monday Night Raw, puisque nous avions Adam Pearce qui était entouré de Ricochet, de Chad Gable, de Matt Riddle, de Tommaso Ciampa, donc tous les faces, hein, de la mid-card, voilà, après les top babyface du main event. Donc Ricochet qui se plaignait auprès d'Adam Pearce, il dit ouais, je me suis fait gruger à SummerSlam, c'est pas sérieux, patati patata. Bon, Pearce il dit bah désolé, je peux rien faire, j'ai bien vu, hein, mais bon, la décision de l'arbitre est définitive, que veux-tu. Bon bref, donc les trois autres que j'ai mentionnés interviennent. Et donc Adam Pearce s'enchaîne et dit bah écoute, tu vois Ricochet, tu vas peut-être avoir une chance de te remettre en selle, puisque ce soir tu es dans un four-way avec donc Matt Riddle, Chad Gable, Tommaso Ciampa. Et le vainqueur remportera un title shot pour aller défier Mr. Gunther. Donc c'est parti. Donc c'est pas un elimination fatal four way, hein, c'est un vrai fatal four way. Le premier tombé l'emporte. Donc bah écoute, on a un fatal four way bourré d'action, assez court au final, 10 minutes. Bon, je vais pas vous faire le play-by-play, mais grosso modo. Moi, j'ai trouvé voilà, un match très, très dynamique avec, grosso modo, ouais, quatre catcheurs qui envoient quand même plutôt du lourd entre les cordes. Hein, ces quatre profils assez, assez nerveux, assez high flyer. Donc, écoute, il y a beaucoup de contres, beaucoup de gros spots. Et ça se termine sur un enchaînement assez marrant de Chad Gable qui essaye de porter son chaos théorie à tous les participants un par un, mais à chaque fois il est contré en fait par l'un des autres qui revient. Donc au début, je crois qu'il essaye de le mettre à Matt Riddle, et puis finalement il est contré par Ricochet, il essaye de le porter à Ricochet, mais il est contré par Ciampa, et puis il finit par le porter à Ciampa. Le maître à Ciampa pour le pin, et donc victoire de Chad Gable qui, après avoir tenu la semaine dernière, la dragée haute à Gunther dans une sorte de gauntlet où tu pourrais pas tenir 5 minutes, puis au final il a tenu 15 minutes, et c'était un match de haute volée, et bien Chad Gable va pouvoir retenter sa chance, petit momentum qui se prolonge en solo là pour Chad Gable en ce moment. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ça et des perspectives peut-être pour ce title shot à venir?
Alors, Chad Gable qui était à domicile, c'était. Je pense aussi tu que as ça raison. A joué, ça a, oui, oui, ça a joué clairement sur.
C'est vrai qu'il a porté
le choix de le mettre en valeur.
Oui, c'est vrai.
Et le gros soutien du public qu'il a eu, hein, parce qu'il était fortement soutenu. En plus, moi, je trouve qu'il fait l'excellent boulot, Chad Gable. Le match était dynamique, et puis globalement, une fois que tu avais compris que le héros du match serait Chad Gable, tu as tout qui a tourné autour, et les gars ont bien jobé pour le mettre en valeur. Le match contre Gunther était une belle réussite. Moi, ça fait longtemps que je pense que Chad Gable pourrait prendre un titre solo avec finalement avec son mini clan quoi, qu'il a avec Otis et maintenant Maxine. Ça serait étonnant que ce soit le moment contre Gunther, oui. Mais bon, pourquoi pas, soyons fous, ça serait soyons une sacrée fous. Surprise en tout cas.
Ce serait une sacrée surprise, ce serait une belle surprise. Je t'avoue que je suis un peu comme toi, moi c'est vrai que Chad Gable j'apprécie beaucoup, j'apprécie le personnage déjà, ce qu'il fait dans le ring, mais j'apprécie aussi le rôle, son abnégation, sa persévérance depuis des années, cette capacité on le dit souvent, mais voilà, à prendre tout ce qu'il peut prendre et à maximiser son temps d'antenne, à transformer un peu le plomb en or à chaque passage qu'il a. Je trouve que c'est vraiment des mecs qui sont plus qu'honorables et même si on déteste les You Deserve It, toi et moi, dans le ring, je trouve que c'est... Quelle horreur. Tu vois, c'est pas qu'il le mériterait, mais je trouve qu'il, enfin, il le gagnerait. Voilà, il se donne vraiment les moyens d'aller le chercher, ce title shot. Et on se retrouve dans une situ où, en effet, comme tu dis, il y a du bon travail depuis plusieurs mois avec la Alpha Academy, depuis même quelques semaines, qui est encore plus fort là avec Maxine Dupri, Otis et cette petite faction très sympa qui se passe. Son travail dans le ring est topissime. En temps normal, on aurait envie de se dire, c'est parfait, tu vois, c'est un babyface qui est en train de se construire, qui est en train de susciter beaucoup de réactions. Potentiellement, une prise de titre pourrait lui faire déjà le plus grand bien, mais puis de toute façon, voilà, il va le chercher à la force du poignet. Ce serait tout à fait logique. Et on se heurte un petit peu à la situation actuelle à la WWE, qui est que ces titres sont, on a l'impression. Collés hein, comme des moules à leur rocher aux champions. Roman Reigns, évidemment, phagocyte le titre mondial. Gunther phagocyte le titre intercontinental. Donc ça bloque des portes à la naissance, on va dire, de petits règnes comme ça, rafraîchissants. Et cette chasse permanente des records, parce qu'on va pas se mentir, hein, de toute façon, là, Gunther, voilà, il est indélogeable du moment qu'il n'aura pas pu dépasser.
Il y a un mois, je crois, du record.
Ouais, il lui reste encore un mois. Bah, c'est sûr que voilà, c'est dommage parce qu'on a l'impression que d'une certaine manière, ça bride un petit peu ces genres de.
Oui.
Ces naissances un peu spontanées qu'il peut y avoir à droite à gauche, comme Chad Gable. Et donc, bon, bah oui, on le voit arriver gros comme une maison. Ce sera sans doute un match d'une bravoure terrible de Chad Gable. Il sera soutenu par le public, ce sera la folie, mais bon, difficile d'y accorder un peu plus de crédit. Et c'est vrai que c'est un peu dommage cette situation, je trouve, actuelle avec les titres. Les titres, c'est particulièrement vrai chez les hommes, je trouve. Chez les filles, ça tourne un peu plus, mais. Tu me diras, chez les femmes, c'est aussi un peu pareil avec Rhea Ripley.
Ouais,
bon, voilà.
Elle est encore loin du record.
Ouais. Non, mais loin du record.
Une fois qu'ils l'ont lancé trop loin, ils ont du mal à s'arrêter. Alors, les Ouzo, une fois qu'ils ont battu le record, ils l'ont vite perdu d'ailleurs. Hein, parce qu'ils avaient battu le record du New Day. Et puis derrière, WrestleMania a terminé. Et bah, je pense que Gunther, c'est pas impossible que dès qu'il ait battu le record du Honky Tonk Man, d'un coup, ils vont se décider à lui mettre un adversaire qui a vraiment une chance de gagner. Puis. Ça a terminé comme ça, quoi.
On verra.
En
tout cas, bravo à Chad Gable. Et donc, on enchaîne avec... Bon, il y a un petit segment backstage assez marrant. Donc, vous l'avez compris, le main event de ce soir sera Sami Zayn, Cody Rhodes et Seth Rollins contre les trois bad boys du Judgment Day. Donc, on les retrouve en coulisses. Hein, donc, Cody Rhodes et Seth Rollins, forcément, hein, c'est pas les meilleurs amis du monde. Ils se cherchent un peu des noises. On sent qu'il y a une tension hein, depuis l'intro. Et donc Sami Zayn qui joue un petit peu voilà, le négociateur, celui qui essaie de ramener la paix et l'amitié entre les deux. Voilà, il leur dit, attendez les gars, ce soir on a l'occasion de faire quelque chose d'incroyable, c'est de remettre le Judgment Day à sa place. On a eu des problèmes avec eux, enfin bref, vous connaissez la chanson. Donc Sami, Cody Rhodes et Seth Rollins disent ok, allez, c'est bon, on est cool. Mais on sent que Sami Zayn, il n'est pas convaincu.
Seth Rollins,
que...
non
oui, enfin que Seth Rollins c'est pas convaincu, mais même Sami Zayn, je le sentais pas forcément. Voilà, il dit ok, ça, il y a encore peut-être un peu de boulot.
Oui, parce que ce que j'insiste sur Seth Rollins, parce que c'est effectivement Cody Rhodes a l'air plutôt dire, tu sais, mais encore une fois, en position
de disant,
moi j'ai rien dit, moi, je sais pas pourquoi il m'en veut, et tout. Et donc, du coup, lui il serre la main assez facilement, et puis t'as que Seth Rollins, on sent quand même qu'il en a, il en a gros sur la patate, hein.
Il y a une sorte de, en effet, de ouais, comme tu dis, de morgue un peu naturelle de Cody Rhodes qui se met de facto au-dessus de la mêlée. Je dis non, aucun problème. Donc, tout ça, on va voir comment tout ça se poursuit. On enchaîne avec hein, Shinsuke Nakamura contre Bronson Reed. Donc, ils continuent leur chassé-croisé en mid-card, ces deux-là. Shinsuke Nakamura, Bronson Reed. Donc, Shinsuke Nakamura qui, depuis 2-3 semaines peut-être, allez, on nous tease un peu quelque chose avec Shinsuke. Voilà, il est agacé, il veut se remettre en selle. On a l'impression qu'il en a marre un peu de fini de niaiser, en quelque sorte. Et puis, c'est un petit peu ce qu'on va voir pendant ce match, hein, parce qu'on a un match très disputé, assez long, 12 minutes quasiment, entre les deux hommes. Et un Shinsuke que j'ai trouvé assez focus, assez motivé, ça fait longtemps. Je trouve qu'on l'a pas, on est peut-être un peu en train de retrouver le Nakamura des débuts, très intense dans le ring, pas beaucoup de bullshit, pas beaucoup de taunt. C'est son style un petit peu assassin, strong style qu'on retrouve, qui, ma foi, m'a plutôt convaincu avec cette opposition de style avec Bronson Reed, toujours aussi impressionnant avec son physique. Et donc, je spoil un petit peu avec ce déroulé, mais vous l'avez compris, Nakamura va finir par l'emporter, donc une victoire assez très clean. Et puis pas négligeable pour le japonais, avec deux Kinshasa, l'un par devant et un vrai par derrière, après avoir évité le tsunami. D'ailleurs, au passage, ça fait plaisir de retrouver Wade Barrett à Raw, juste pour pouvoir entendre.
Il était content de le lancer. Hein.
Ah ouais, il était content de le dire, le tsunami, comme ça, là, donc c'était pas mal. Et donc, va victoire de Nakamura, qui se. On sent qu'il place ses pions, qu'il se positionne. Comment t'as vécu un peu ce match ?
Ah, je suis partagé sur ce sujet-là. Je suis grandement partagé parce qu'effectivement le match était honnête et globalement Nakamura il recatche un peu plus que ce qu'il a fait dans le passé. En revanche, j'ai tellement de passif avec lui que j'arrive pas du tout à m'emballer. C'est-à-dire que il m'a tellement saoulé par le passé. Là, encore récemment, il était dans des histoires pourries là, avec Ciampa, Ricochet, tout ça. Enfin, il a quand même, il a tellement de passifs que j'ai du mal à lui mettre le peu d'actifs qu'il a. Ne fait pas encore pencher la balance en sa faveur. Donc, du coup, moi, j'arrive pas du tout à m'enflammer sur le sujet de Nakamura.
Yeah, fair enough, comme ils disent. Je comprends, moi aussi, hein, c'est vrai que je te cache pas. Après, j'ai toujours eu une énorme frustration vis-à-vis de ce mec qui a toujours été vendu comme comme un dieu absolu quand il est arrivé à la WWE, qui a eu en effet quelques éclats à NXT, mais après son passage au main roster, bon, il a eu aussi quelques faits d'armes, quelques brillances, on va dire, mais moi j'ai jamais été transcendé, on va dire, il a jamais, je trouve, été à la hauteur de la réputation qu'il précédait. Et puis après il a eu une longue traversée du désert où manifestement il était plus intéressé par interminable, était plus intéressé par ses planches de surf que son catch. Donc bon, écoute, si on retrouve un Shinsuke, on sait que voilà, quand il est très très focus, il est capable de faire des trucs super dans le ring et d'être très impressionnant. Donc pourquoi pas, mais bon, je suis d'accord avec toi, entre guillemets, c'est pas juste ce match-là qui va me faire oublier toutes les mois et les mois, voire les années de dilettante. Donc attendons de voir, mais voilà, en tout cas, on sent qu'il se passe un petit truc. Il y a des frémissements sous la casserole Shinsuke Nakamura en ce moment, et donc on va voir ce que tout ça va donner. On continue avec, on retourne en backstage, et donc là on a eu une petite vignette assez rigolote, puisqu'on avait Maxime Dupri qui s'est fait approcher par Ludwig Kaiser. Donc c'était, Maxime Dupri qui était toute seule dans le vestiaire d'American Alpha, et Ludwig Kaiser qui débarque, et puis qui commence à gentiment dragouiller un petit peu Maxime Dupri. Donc c'était assez rigolo, parce qu'il dit « Ouais, bon, qu'est-ce que tu fais avec ces losers de American Alpha? Tu serais bien mieux avec nous chez Imperium, la classe à l'européenne, hein, regarde, moi je suis, qu'est-ce que, et puis ce gros moche Otis là, alors que regarde ce que tu, regarde les beaux étalons européens que tu pourrais fréquenter, il se fait le menton bien haut, le regard fier et tout, donc bon c'était un petit échange, Maxime Dupri qui n'a pas l'air intéressé du tout, et d'ailleurs, comme souvent le grand classique du catch, quand on commence à trash talk quelqu'un qui n'est pas à l'écran, bah en fait, il se trouve qu'il est juste derrière ton épaule, et donc t'as Otis qui était juste derrière Ludwig Kaiser, et puis qui fait hop hop hop, et donc, d'ailleurs, Ludwig qui ne se démonte pas, hein, il y aura challenge pour ce soir, deal, match entre les deux, Ludwig Kaiser contre Otis, booké un petit peu plus tard dans la soirée. On va en parler tout de suite, hein, donc c'était un petit peu plus loin dans l'émission, donc Otis contre Ludwig Kaiser, Maxime Dupri et Giovanni Vinci sont aux abords du ring. À noter que, sauf erreur de ma part, je crois que Chad Gable n'était pas là, hein,
non, donc, c'est étonnant, ouais.
Donc voilà, c'est peut-être pour renforcer dans l'inconscient collectif le fait que voilà, Chad Gable en ce moment, ses intérêts sont solo, et donc le spotlight de la Alpha Academy est plutôt sur le couple Otis Dupri. Match très rapide, victoire de Ludwig Kaiser sur un Enziguri, un petit coup de pied sauté sur Otis, après évidemment une distraction de Giovanni Vinci, évidemment, donc victoire rapide.
Et de Gunther, de mémoire, Gunther était là aussi.
Et oui, pardon, également, tu as raison, en effet, Gunther qui arrive et qui fait un cheap shot. Et donc victoire de Imperium sur Otis qui repart tout penaud en 3 minutes et quelques, donc d'une certaine manière un coup porté à distance, puisque son cher protégé s'est fait un petit peu avoir comme un bleu sur ce coup-là. Donc voilà, écoute, petit échange de mid-card qui moi m'a fait sourire, je sais pas si t'as d'ailleurs un commentaire là-dessus.
Ouais, c'est le seul commentaire que je vais avoir là-dessus, c'est effectivement l'absence de Chad Gable là, dans tout le segment du match, alors que t'as bien Gunther qui est là, lui, aux abords du ring, et puis qui du coup va intervenir. C'est quand même étonnant. J'espère que c'est juste une petite ficelle pour dire que il a pas pu sauver son ami, et du coup ça a empêché la confrontation avec Gunther et on la garde pour plus tard, et pas qu'il s'est blessé. Ce serait comme Balot. Mais ouais, c'était quand même étonnant de les voir à 2 contre 3, enfin quand c'est les fesses qui sont à 2 contre 3 parce qu'il y a un mec qui vient pas, c'est toujours un peu bizarre comme, comme ouais. attitude. On peut toujours se demander la cause profonde de ce choix-là.
Oui, en effet, c'était, je suis d'accord, c'était assez surprenant. Donc, voilà, est-ce que c'était juste une sorte d'effet un peu pour, comme je disais, renforcer l'impression que voilà, Chad Gable est solo, mais bon, ça faisait pas trop de sens, parce qu'il y avait quand même son copain qui se faisait canarder là par les trois autres. Mais bon, écoute, à voir, en tout cas, c'était surprenant, je suis d'accord. On va continuer avec Becky Lynch qui est là pour sa petite promo hebdomadaire. Becky Lynch qui vient nous expliquer que elle va avoir comme attendu son match au Canada d'ailleurs hein, la semaine prochaine à Raw contre Trish Stratus. Voilà, ça y est, c'est le mano à mano pour enfin décider de qui est la meilleure de l'ancienne génération contre la greatest, la GOAT Becky Lynch de cette génération. Donc enfin, elles n'ont pas eu leur moment à SummerSlam, mais ça y est, elles vont l'avoir la semaine prochaine. Donc il est grand temps d'en finir. D'ailleurs, Becky Lynch qui ne manque pas de nous rappeler que elle en a marre d'ailleurs hein, d'avoir affaire à Trish Stratus, donc elle a hâte que ce soit terminé. Elle a toujours le chic pour dire ce que tout le monde pense, tout haut ce que tout le monde pense tout bas, c'est bien. Mmh. Et ce qui nous fait sortir, Zoé Stark qui arrive et puis qui elle n'est pas contente qu'on trash talk sa mentor. Donc elle arrive et dit oh, moi je attends, arrête de parler mal de Trish Stratus. Et Becky Lynch qui d'une certaine manière enfin un petit peu dans cette histoire s'en prend verbalement à Zoé Stark et puis qui lui demande, lui dit mais je comprends pas, qu'est-ce que tu fous avec Trish Stratus, tu vois pas qu'elle t'utilise, c'est évident, elle est complètement washed, elle vaut plus rien, Trish Stratus, toi t'es une petite jeune en puissance machin, donc qu'est-ce que tu bref voilà qu'est-ce que tu fous avec elle, elle essaye de planter quelques petites graines de la dissension entre les deux. Et Zoé Stark, qui se laisse pas démonter d'ailleurs, elle dit oui, t'as bien raison, je suis putain de bonne à ce que je fais. En effet, je suis très très forte, je suis même meilleure que toi. Patati patata, je suis exceptionnelle, je suis la fastest rising star à Monday Night Raw. Et ce sur quoi, surprise, c'est la musique de Shayna Baszler qui intervient, qui arrive, et Shayna Baszler qui arrive. Avec un gros cocard, œil au beurre noir, bien cabossé de sa masterclass, hein, de sa masterpiece de la veille, enfin de l'avant-veille, pardon, les PLE étant le samedi maintenant, à SummerSlam contre Ronda aussi. Donc elle arrive et lui dit attends, qu'est-ce que j'ai entendu, t'es la plus dangereuse, t'es la meilleure.
La badass, t'avais dit en fait.
Ouais, t'es la badass, t'as raison, c'est ça. Ouais, c'était ça le trigger, c'était ça. Ouais, je suis la badass, donc non, Shayna Baszler qui arrive dit vous avez pas vu ce qui s'est passé à SummerSlam, j'ai battu Ronda Rousey, donc c'est officiellement moi la baddest woman on the planet maintenant décidément. Becky Lynch qui approuve d'ailleurs, voilà, donc très très bien. Donc ça commence à chauffer un peu entre Zoé Stark et Shayna Baszler. Donc, comme souvent dans ces cas-là, Becky Lynch assez rigolote là, donc elle prend un petit peu de recul, elle regarde les deux se chauffer et puis elle les provoque un peu et dit oh là attends, c'est pas de la provoque
que j'entends. Qu'est-ce qu'elle dit de toi là ? T'as entendu
là ? Ouais, t'as entendu ce qu'elle a dit. Elle te provoque. Moi je dis ça mérite baston, franchement. Bon, donc ça, c'est classique Becky Lynch. Et puis, dit, ouais, moi, je pense qu'il faudrait rendre ce match officiel, patati patata. Et donc, et Adam Pearce, il loupe pas un moment pour...
La grosse feignasse,
dès qu'on peut rendre son job un peu facile, lui, tout de suite, il arrive, et il y a son petit crâne chauve qui apparaît sous le petit entron. Il dit, hop, qu'est-ce que... J'entends une proposition de match qui a l'air intéressante, une idée que j'ai pas eue. Je valide, le match est officiel et le match est right here, right now. Donc c'est parti, Shayna Baszler contre Zoé Stark. Et donc, c'est parti pour 13 minutes quand même, donc un match assez long. Ouais, un match assez long entre les deux, match assez technique, match forcément pas mal au sol, hein, pas mal de prises de soumission. Shayna Baszler qui ralentit pas mal le rythme alors que Zoé Stark est plutôt sur la puissance. Et un match qui, m'a paru très compétitif, assez, enfin pas mal, plutôt bonne mise en valeur de Zoé Stark, moi qui me plaît bien dans le ring, je dois avouer. Je suis assez intéressé d'en voir plus une fois que l'épisode Becky Trish sera terminé. Et donc un match qui se termine sur un Piper Spit. De Zoé Stark, de Shayna Baszler. Shayna Baszler qui l'emporte donc sur Zoé Stark. Zoé Stark qui s'est bien battue, mais qui a succombé, on va dire, un peu à l'expérience et à l'expérience de Shayna Baszler, qui donc poursuit son momentum, on va dire. On ne sait pas trop à quoi ça va lui servir, mais bon, en tout cas, son momentum. Et Zoé Stark qui donc qui chute au grand plaisir de Becky Lynch, qui était restée aux abords du ring à siroter de la limonade au citron, donc qui, je pense, était clairement, il faisait clairement écho à, je ne sais pas si tu as trop suivi les échanges sur les réseaux sociaux avant SummerSlam, mais pas du tout,
vas-y, tiens-moi.
Becky Lynch qui avait été très vocale à l'issue de la décision qui avait été d'écarter Becky Lynch Trish Stratus de la carte de SummerSlam, et donc on l'avait vu sur Twitter en train de se prendre en photo chez elle, en train de presser des citrons, qui est un peu l'expression, un peu, enfin ouais, couper des citrons, presser des citrons, c'est un peu quand on est sur le côté, quand t'es sur le banc de touche, hein, et puis c'est le côté aussi l'amertume des citrons, c'est non, mais regardez, je suis pas du tout amer, machin, donc il y avait eu ce petit truc qui avait été repris d'ailleurs. Je sais plus exactement comment il l'avait dit, mais c'est pareil. Je pense que c'était pas complètement innocent, connaissant le personnage. Mais lors de la conférence de presse d'après SummerSlam, il y avait Triple H qui avait eu un bon mot. Il avait utilisé une expression en disant qu'il y en a qui étaient capables de. Il avait utilisé un truc avec presser des citrons dans sa conférence de presse, et je pense que c'était un jab assez clair à Becky Lynch. Alors c'est dommage parce que faudrait que je retrouve l'expression qu'il a eue, mais c'était une façon de dire on peut pas presser la carte, enfin il y a pas de la place pour tout le monde, et
on peut pas presser la carte comme d'autres prennent des citrons ou un truc comme ça.
Ouais, un truc un peu dans ce style là, donc voilà, il y a eu un petit taunt, et donc Becky Lynch deux jours après qui arrive et qui boit de la limonade. Et d'ailleurs, je crois qu'au commentaire, elle a été un peu. On lui a demandé pourquoi elle buvait de la limonade. Elle a dit non, mais c'est pas du tout pour l'amertume ou un truc comme ça. Enfin bref, voilà. Il y avait une petite private joke. Je sais pas dans quelle mesure c'était un peu de la provoque où il jouait un peu sur le buzz qu'il y avait eu sur Internet. Mais en tout cas, voilà, c'était rigolo. Donc je voulais le mentionner, mais sans doute que d'autres personnes plus averties sur Twitter auront eu plus la ref que moi. Donc voilà. Bon, en tout cas, pour revenir à ce qui s'est passé dans l'émission, victoire de Shayna Baszler, défaite de Zoé Stark, petite passe d'armes entre les deux, on tisse peut-être des programmes pour la suite. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu des retombées de tout ça?
Alors déjà, merci pour cette explication sur tout le truc Twitter, parce que quand t'es pas connecté aux réseaux sociaux, ça te passe totalement au-dessus de la tête, donc moi... ok, la soif, ouais, merci. Oui, par rapport à ce match-là, ouais, j'étais aussi étonné et par la durée, par la résistance de Zoé Stark. Alors, on va voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Si je le prends à moitié plein, je me dis qu'effectivement, le projet Zoé Stark continue et qu'ils ne veulent absolument pas lui donner une grosse défaite et la montrer ultra compétitive. Si je vois le verre à moitié vide, je me dis, de toute façon, c'est le classique de WWE triple chienne. Ou de toute façon, n'importe qui peut avoir un match de 10 minutes contre n'importe qui. Bon, on verra dans quel côté ça penche, mais effectivement, Zoé Stark est bien positionné pour l'instant. Et quant à Shayna Baszler, elle revient un peu cabossée. Je pense que le public était comme vachement content qu'elle ait battu Ronda Rousey, hein, vu la réaction quand elle a dit ouais. « Je vous ai enfin débarrassé de Ronda Rousey ». C'était « Ah, super, on la verra plus !» Si jamais ils avaient espéré qu'elle récupère un peu de sympathie avec cette défaite de Ronda Rousey en chialant, c'est pas pour tout de suite. Hein.
Non, c'est pas pour tout de suite, en effet. Ouais, il n'y a pas eu une pop. C'est pour ça que je suis un peu curieux de savoir qu'est-ce qui. Bon, cette victoire-là, on a donné... Bon, ça ne me dérange pas fondamentalement qu'elle ait battu Zoé Stark. Hein. Zoé Stark, c'est une rookie. Shayna Baszler sortait d'une victoire contre Ronda Rousey. Bon, ça n'aurait eu aucun sens, on va dire, de faire perdre Shayna Baszler.
Oui, clairement.
Donc je suis plutôt d'accord avec le fait, et puis d'avoir rendu le match compétitif, je trouve que c'est intéressant quand même pour les prospects, on va dire, de Zoé Stark. Donc globalement, je trouve que voilà, le truc a été rondement mené. Maintenant après, voilà, c'est plus l'après pour Shayna Baszler. On voit, elle a suscité quasiment aucune réaction à SummerSlam. Là encore à Raw, elle bat une heel clairement identifiée. Elle a pas suscité beaucoup de réactions. Ça va être compliqué. Hein. Je sais pas ce qu'ils vont faire de ce momentum qui lui donne, mais ouais, c'est un petit peu.
Après, je sais pas si on peut en le faire la boucle tout de suite parce que on aura un petit segment backstage après, mais elle est pas positionnée face. Hein. Enfin, elle est vraiment Twitter.
Elle est pas positionnée face. Ouais, je sais pas, mais c'est pour ça que je pense que c'est. Ça va être d'autant plus difficile à gérer, c'est que tu sens que ça pue le demi-push à plein nez, quoi. Enfin, le truc où ils y vont pas à fond, franchement, moi j'aime plus. Moi je trouve que c'est un concept qui est un peu éculé, ce truc de tweener, ça n'existe. Enfin, je trouve déjà que ça a jamais vraiment existé, même si bon, tu peux toujours sortir des exemples un peu fameux dans l'histoire, mais bon, faut avoir un talent absolu. Ouais, c'est Steve Austin et éventuellement après il y a eu CM Punk qui avait un peu ce rôle, mais enfin c'est
ouais
c'est...
de loin, très très loin.
Mais, ouais, de très très loin, mais c'est faut avoir un talent incroyable pour pouvoir tenir ce genre de truc et en vrai rien de vaut, voilà, bon vieux, voilà, face heel, c'est comme ça que ça marche, la mayonnaise, et donc bon voilà, je sens qu'avec Shayna Baszler ça va être indubitablement délicat. Mais bon,
surtout
écoute...
pas tweener sans micro, hein, juste.
Ouais, voilà.
C'est parce qu'on parlait de Steve Austin,
voilà,
de voir de CM
micro,
Punk.
C'est ça.
Si, ouais, c'est Steve Austin, s'il cartonne, promos, c'est grâce au micro à l'origine. Hein.
Exactement, il faut pouvoir faire des promos. Mais tiens, je finis quand même, parce que comme ça, vu que j'ai le vrai truc, je finis de t'éclairer sur ce qui s'était passé sur Twitter. Mais c'est, tu vois, Triple H avait dit lors de sa conférence de presse, c'était il faut que les catcheurs soient capables de prendre des citrons et d'en faire de la limonade, ce qui était une référence à tout le monde a des miettes, un peu de temps d'antenne, faut prendre ce qu'il y a à prendre, et d'ailleurs c'est un discours que j'approuve complètement, faut prendre ce qu'il y a à prendre, et puis bah parfois voilà, on te donne pas grand chose et faut arriver à en faire quelque chose de sympa, donc on te donne quelques citrons, faut en faire de la limonade.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et puis bah voilà, tout le monde n'aura pas toujours sa place sur tous les PLE, donc il faut pouvoir prendre ce qu'il y a à prendre, c'était dans ce sens-là qu'il l'avait dit, et donc c'était tout, voilà, c'était clairement un jab à Becky Lynch, et donc Becky Lynch était arrivée avec sa limonade justement à Raw, et c'était Wade Barrett qui avait dit que la limonade était très bonne et n'avait aucune amertume, donc c'était peut-être une façon de désamorcer un peu le truc. Voilà,
de toute façon, si elle peut se permettre d'arriver avec sa limonade à la main,
ouais, je pense que c'était validé, hein. Ouais.
C'est validé, hein, et puis
c'était oui, validé. Voilà. Elle se permettrait pas ce genre de provoque, je pense. Allez, on continue, et donc bah du coup là, on enchaîne avec une grosse promo, mesdames et messieurs. C'était le Miz qui est arrivé. Voilà, le Miz, il arrive avec son micro et puis on se demande ce qu'il va bien pouvoir nous raconter parce que le Miz, bah finalement, il a pas tant de programme que ça en ce moment. Donc il arrive face caméra, tac, avec son petit micro. Il dit je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi est-ce que les gens aiment bien LA Knight ? Alors en fait, voilà, là on comprend assez vite finalement. Il est pas content de ce qui s'est passé il y a 48 heures parce qu'on se souvient dans la bataille royale Slim Jim que le Miz s'est fait éliminer par LA Knight. Donc il se dit pourquoi est-ce que tout le monde aime bien LA Knight ? C'est quoi cette supposée fame, cette hype qu'il y a autour de ce personnage ? Et puis il s'est jamais présenté, il vient de nulle part, je comprends pas. Il aurait dû venir me voir et se présenter me présenter une marque de respect en quelque sorte. Moi, je suis un des locker room leaders, patati patata. Donc j'en ai marre qu'on manque de respect. Bon, bref, il part un peu dans les tours pour rien, on a l'impression. Et alors la surprise, LA Knight est là, la musique retentit, Minnesota est debout. Le Target Center est en feu, la Megastar est à Raw, la Superstar de SmackDown est à Raw. Bon, hein, fuck la draft, hein, ça on a compris, hein, je pense, depuis un moment. Hein,
oui, c'est oublié.
Ouais, allez. Hein,
je vais justifier le truc, allez, je vais justifier le fait qu'ils soient venus, parce que tu as oublié un tout petit segment, c'est au début de show, on voit le Miz qui arrive dans l'arène et qui croise, qui veut aller faire son shooting photo qui croise LA Knight, enfin que LA Knight est avant lui et prend toute la place au shooting photo. Donc c'est éventuellement, vrai, vrai. Allez, je vais donner une excuse à la WWE. On va dire qu'il était là pour le shooting photo et que du coup, bah, il a entendu son nom, il est venu.
Allez, va. Allez, on accepte. Et donc, bah, LA Knight est là et puis, bah, écoute, et alors c'est parti là. C'est la promo. On se dit. Alors moi, c'est vrai que là, je me frottais un peu les mains. Je me dis, ah, ça y est, on va peut-être avoir la première vraie battle, tu vois, la première vraie passe d'armes de LA Knight, parce que jusqu'ici, on a eu beaucoup de promos solo. Il arrive au ring avec son micro, il envoie deux trois saucisses et puis basta. Et donc
c'est
là,
c'est même pas des promos qu'il fait pour l'instant, c'est surtout il pense des saloperies sur les gens, quoi.
Oui, voilà, c'est ça, il trash talk vite fait avant ses matchs ou après ses matchs, et c'est tout. Et donc il arrive avec son petit micro, il dit « Ah, let me talk to you », bon, bah voilà, donc il fait sa catchphrase, le public est très content, et puis il dit « Bah écoute, le Miz, tu voulais que je me présente ? Bah pas de problème, me voilà, je suis la mégastar de « With everybody saying », donc là il fait son taunt, LA Knight, et il tend la main au Miz, très fier de lui, voilà, comme ça le public a chanté son nom, il s'est présenté, donc le Miz, lui, il enlève ses lunettes de soleil, il les met dans sa poche, et il prend son micro, il dit « Non ». Ça me va pas. Et donc là, c'est parti. Donc le Miz, il commence à dire non, mais en fait, il part en trash talk. Il dit ouais, mais écoute, je comprends pas. Donc il répète un petit peu ses arguments avant qu'LA Knight arrive. Ouais. Il dit ouais, t'es the flavor of the month. Hein, donc t'es un petit peu le parfum du mois. T'es la hype du moment. On va t'oublier aussi vite que t'es arrivé. Qui t'es, d'où tu viens. Je pense que t'es juste. Moi, je pense que je sais ce que t'es. Je pense que t'es juste un fanboy de l'attitude era. T'es une sorte de bootleg là. Qui s'inspire de trucs qui ont marché il y a 20 ans, qui fait du cosplay de Steve Austin là, au milieu du ring. Et donc LA Knight, qui juste avant lui avait dit qu'il voulait pas que ce soit personnel, il venait juste se présenter en quelque sorte, il voulait pas trop se chauffer avec le Miz, mais bon là, quand le Miz le trash talk, LA Knight lui aussi il enlève ses lunettes, il dit ok, bah, écoute, tu veux que ce soit personnel, bah écoute, on va faire en sorte que ce soit personnel. Donc, parce que le Miz lui avait demandé, je dis, mais qu'est-ce que tu as fait ces 20 dernières années? Moi, je suis double Grand Slam, je suis champion intercontinental, j'ai main event WrestleMania, patati patata, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Et donc, c'est le grand moment pour LA Knight qui va pouvoir nous expliquer, bah oui, qu'est-ce qu'il a fait ces 20 dernières années? D'où il vient? C'est qui LA Knight? Et donc, LA Knight, il nous explique, bah oui, mais moi, j'ai passé, voilà, moi, tu sais ce que j'ai fait ces 20 dernières années, j'ai passé ces 20 dernières années à faire de moi quelqu'un de dangereux, hors de la WWE. Ouf. Bon, ok, bon, c'est pas trop ce que ça veut dire, mais bon, voilà, il dit, moi, j'ai fait de moi un dangerous man pendant 20 ans, la WWE a misé sur tous les mauvais chevaux, dont toi. Voilà, moi j'ai bataillé sur le côté, j'ai fait en sorte qu'on me remarque, je me suis construit mon personnage, et il attendait, voilà, pendant 20 ans, il a attendu une chance, l'opportunité de rentrer au bon moment et de prendre la place. Et donc il explique la différence entre le Miz et lui, c'est que justement lui c'est un mec dangereux, donc pas dangereux dans le sens, évidemment il est pas dangereux dans le ring, mais c'est un gars dangereux dans le sens où on peut pas faire de lui ce qu'on veut, c'est on peut pas lui dire LA Knight tu vas faire ci, LA Knight tu te tires du vestiaire, LA Knight tu vas bosser pour machin et tu vas fermer ta gueule, voilà. Et LA Knight lui c'est un mec qui sait ce qu'il veut dans la vie, pas comme le Miz parce que le Miz justement avait rappelé juste avant que pendant 20 ans lui il avait mangé son pain noir à la WWE, il avait été kick out du locker room, il avait fermé sa gueule entre guillemets, et puis finalement il en était arrivé là où il en était parce que il l'a pas dit comme ça, mais d'une certaine manière parce qu'il avait été un bon employé quoi de la WWE. Et LA Knight lui raconte que bah non, justement lui on n'a jamais voulu parier sur lui parce que justement c'est pas un mec comme le Miz, c'est pas un gars qui se couche à la première vague, c'est que bah lui il aurait forcément causé des problèmes, causé du grabuge, et donc c'est pour ça qu'il arrive seulement que maintenant. Parce que bah, il a fini par exploser, qu'il est on the rise, il est sur la trajectoire ascendante, pendant que la carrière du Miz, elle est dans les toilettes. Bon, il y a eu un petit botch, mais il s'est rattrapé. Maintenant qu'il est là, il compte bien ne plus lâcher la place et faire en sorte que le Miz ne soit juste que une stepping stone, donc un échelon à gravir sur l'échelle de la gloire et du main event. Ça part un peu en couille parce que le
Miz il lui plaît pas la stepping stone là,
le stepping stone ça lui plaît pas, il dit quoi, le main event c'est moi, donc il y a LA Knight qui dit ah bon c'est toi le main event, bah écoute prouve-moi que t'es le main event, vas-y, donc ça enlève les vestes, c'est parti. Baston dans le ring, on pense qu'on va avoir un match, mais en fait non, on a un brawl, Et donc Skull Crushing Finale qui est tenté sur LNA qui le contre, Blunt Force Trauma le finisher pour mettre le Miz KO la petite touche finale avec LNA qui serre la main du Miz qui est KO par terre histoire de dire bon bah voilà finalement ma poignée de main je l'ai eu, enchanté, moi c'est LNA et donc il se barre sous les vivas du public. Bon, j'étais un petit peu long sur cette promo mais en même temps je trouve que c'était d'une certaine manière de mon point de vue c'est une promo importante parce que on en parle souvent. Je trouve qu'il y a des. J'ai déjà eu l'occasion dans des épisodes d'analyse de faire cette référence-là. Mais quand il y a des changements de gimmick, quand il y a des nouveaux personnages, quand il y a des turns par exemple, je trouve qu'il y a des. Souvent, il y a un moment dans les shows où il y a des promos qui sont assez fondatrices. C'est des promos un petit peu où t'as vraiment l'occasion de te présenter en quelque sorte. Hein. C'est au-delà de ton catch, c'est le moment d'expliquer vraiment au public pourquoi est-ce qu'on devrait finalement investir un peu en toi en termes d'attention et de pop ou de hit ou quoi que ce soit. Et donc là, c'était clairement la promo fondatrice pour LNA qui en plus se frottait pas à n'importe qui. Donc comment est-ce que tu as vécu cette première vraie passe d'armes de LNA?
Je l'ai vécu, c'était... Alors, pour reprendre ton terme de la promo fondatrice, je ne suis pas sûr qu'il ait bien fondé son personnage là, avec cette promo-là. Ouais. Le contenu de la promo, je l'ai trouvé assez médiocre. Le delivery était bon. Mais alors, le contenu, pouf. Alors, déjà, je suis un mec dangereux. Ah bon ?
Ouais.
Je suis dangereux, oui, mais je suis... En plus, il a vachement joué sur les... Alors, les deux ont joué un peu sur les critiques qui se passent sur Twitter. Hein, et le Miz avait beau jeu de dire... c'est la saveur du mois et il repompe tout ce qu'ont fait les anciens. Ça, c'est un peu les critiques qui se posent. Honnêtement, le After the Bell, là, et je regarde un peu les commentaires Twitter. Et alors, t'as beaucoup de trucs qui sont à fond dedans et t'en as aussi beaucoup qui disent non, mais LA Knight, c'est juste un copycat en fait. Il fait pomper. Donc là-dessus, c'est vraiment une critique qui lui est donnée et du coup, Miz lui a servi pour que LA Knight rebondit. Mais le rebond de LA Knight, je l'ai pas aimé en fait. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas compris où il voulait en venir et en quoi ça devait me donner de le soutenir, envie de le soutenir en fait. Toi t'es un mec safe dans le sens on peut compter sur toi. Et ben non, moi je suis pas comme ça, moi je suis un mec dangereux. Je suis pas sûr que ce soit une qualité, tu vois. Toi le Miz, toi t'as accepté, t'as résisté face au vestiaire qui était contre toi et tout. Moi j'aurais jamais accepté ça. T'aurais fait quoi? Tu te serais barré alors? Et tu vois là-dessus, en fait, tout ce qu'il apportait comme argument, je ne trouvais pas ça forcément des qualités. Je disais, j'ai plus envie de soutenir le Miz dans ce truc-là, parce que lui, il n'avait pas les atouts en sa manche au début, il a résisté, il s'est mis à un money vote. Bon, il est complètement en chute libre, le Miz. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je ne suis pas sûr que ce soit des défauts ce qu'il a fait, le Miz. Au contraire, il n'avait pas les atouts et il s'est battu pour avoir sa place et il a superment réussi sa carrière. Et toi, derrière, tu arrives en disant, moi je suis pas un loser comme toi, j'aurais pas attendu 20 ans pour réussir, j'ai préféré faire mes petites merdes à côté et puis revenir en tant que méga star. Tu vois, autant on a eu des mecs, on a eu beaucoup de mecs qui ont fait énormément d'indie avant d'arriver à la quarantaine. Là. Alors Finn Balor, on parle jamais, donc c'est pas vraiment un exemple, mais AJ Styles, lui c'est un peu ce profil-là, il a fait toute sa carrière en indie, puis à 40 ans il est venu à la WWE. Quand il a expliqué qu'il... Il était fier de son parcours, mais d'un autre côté, il critiquait pas ceux qui étaient là depuis le début, tu vois. J'ai pas trouvé que les arguments de LA Knight faisaient mouche. Et tu disais fonder un personnage, je trouve pas qu'il ait fondé quoi que ce soit, en fait. En fait, le seul truc que je ressors de ce personnage, de cette fondation de personnage, c'est de me dire que LA Knight, pour l'instant, c'est qu'une machine à trash talk et qu'il a pas vraiment de choses à raconter. Voilà. Sur la promo, je parle. C'est-à-dire que ce qu'il a fait sur After the Bell, tout ça, il y avait beaucoup plus de fond. Mais alors, ce qu'il nous a sorti en promo, c'était pas zéro, mais c'était pas intéressant. Voilà, on va le dire comme ça.
Alors, étrangement, peut-être, hein, je sais pas, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, mais je suis assez d'accord avec toi. Paradoxalement, en fait, cette promo, je suis complètement d'accord, la delivery était excellente. Enfin, ouais, il y a eu un micro botch, mais enfin, franchement, c'est
ça arrive à tout le monde.
Ça arrive à tout le monde et puis c'est très bien rattrapé. Mais par contre, ouais, en fait, sur le fond, je trouvais qu'il n'avait pas grand chose à dire de très intéressant, voire même c'était un peu flou. Enfin, ouais, je comprenais pas trop le délire. Enfin, voilà, je vais pas paraphraser tout ce que tu viens de dire, mais c'est vrai que finalement, de dire que lui, c'était un mec dangereux et qu'il n'est pas à la WWE depuis 20 ans parce qu'en fait, d'une certaine manière, on n'aurait pas vraiment pu compter sur lui dans les moments un peu difficiles. Du coup, c'est peut-être pas fantastique. Et en fait, paradoxalement, c'est vrai qu'il y a un truc qui est assez inexplicable. Alors, c'est vrai que parce que tu as fait mention à After the Bell, là, donc le podcast Corey Graves et Kevin Patrick, donc il y a eu un épisode il n'y a pas longtemps, juste avant SummerSlam, l'épisode, donc c'était LA Knight l'invité. Donc, c'est vrai que. En fait, d'une certaine manière, cette promo était une sorte d'ultra-synthèse de ce que LA Knight a dit un petit peu sur le podcast After the Bell, sur sa motivation, sur ce qu'il drivait un petit peu, pourquoi est-ce qu'il était là à la WWE. Et même si j'ai bien aimé, d'une certaine manière, la version plus longue sur son parcours, tu sens que c'est un gars, oui, c'est pas un company man, c'est pas un yes man, oui, c'est pas forcément un fan de la WWE de la première heure, quoi. Donc d'une certaine manière, t'as presque l'impression qu'il s'en fout un peu d'être là. Lui, il mène un peu sa barque en solo, il veut être le top guy et basta. Il pourrait faire ça n'importe où. Il veut juste être un mec au top et qui est reconnu, quoi. Mais ce discours, d'une certaine manière, est un petit peu creux. Même dans le podcast, c'est-à-dire que je trouvais que tu l'écoutais parler, tu dis ok, c'est beau, il a un parcours, il en a chié, il a bouffé de la merde pendant des années et tout, mais fondamentalement c'était pas très inspirant non plus, tu vois, tu te dis pas c'est un gars, waouh, c'est passionnant de l'écouter parler, et paradoxalement, là où je veux en venir, c'est que il y a un côté, c'est assez mystérieux, enfin, c'est le charisme, j'imagine, hein, c'est le hit factor. On appelle ça comme on veut. Il y a des gars comme ça pendant des. Il y en a eu plein dans l'histoire de la WWE, des mecs qui, d'une certaine manière, ont eu été incroyables au micro, mais on avait l'impression qu'ils n'avaient jamais rien à dire. Je pense, des mecs comme Batista, j'en sais rien, ou des gars où tu te dis, tu te demandes presque comment ça fait pour fonctionner, mais en fait, ils ont
un truc.
Ouais, Randy Orton, d'une certaine manière.
J'ai jamais grand-chose à raconter. Hein.
Il avait rien à raconter, mais il y a des gars, tu sais pas pourquoi, en fait, quand ils parlent, tu les écoutes. Et il y a un truc qui m'a frappé vraiment sur cette promo, et ça m'avait déjà traversé l'esprit sur les précédentes petites passes micro de LA Knight à SmackDown ou dans les pay-per-view, c'est qu'il y a un truc, et quand il parle, il y a vraiment un silence dans le stade qui s'installe et tout le monde l'écoute. Enfin, il n'y a pas de brouhaha, il y a une sorte de captivation de quand il parle, les gens l'écoutent et sont vraiment suspendus, et il peut poser la moindre question, tout de suite le public va réagir en faisant des yeux pour l'aider dans sa promo, il a le public d'une certaine manière dans la paume de sa main, c'est un peu l'expression, il y a un truc, il a beau dire des trucs inintéressants, et pour le coup je suis vraiment d'accord, je trouve que cette promo était quand même ultra creuse, ça fonctionne, il y a quelque chose d'assez dingue, et donc encore une fois il arrive sous les vivets de la foule, il a planté le Miz par terre, il repart sous les vivets de la foule, le seul truc qui voilà le truc que je retirerais de ça, c'est que ok, ça marche, mais est-ce que sur le long terme est-ce que ce personnage peut fonctionner, est-ce que quand il aura atteint son paroxysme, quand il aura pris une ceinture, j'en sais rien et tout, est-ce que son personnage va vraiment pouvoir s'installer avec aussi peu de backstory entre guillemets, c'est la question qui mérite d'être posée à l'issue de cette promo,
parce qu'en fait finalement la promo donne beaucoup raison au Miz, en fait, avec oui. sa À dire c'est la Flavor of the Month, ouais, ça ressemble à ça, la promo.
Ouais, et puis d'ailleurs, il contredit même pas ça, hein. Il part sur autre chose, hein, dans ses arguments, il dit même pas, voilà, donc je suis là pour longtemps, ou j'en sais rien, il va même pas sur ce terrain-là, lui, c'est juste, il dit j'en ai chié, et puis maintenant je vais t'éclater, donc voilà, basta, quoi. Écoute, en tout cas, quoi qu'il arrive, ça nous promet une petite feu de mid-card, ma foi, plutôt sympa. Enfin, un vrai programme pour LA Knight, parce qu'il était temps quand même aussi de lui donner un peu une direction. Donc, il va avoir un programme, donc il y a crossover Raw SmackDown. Bon, ça, je pense qu'on s'en bat les steaks. Hein.
Ouais. Peut-être dédrafté, hein, parce que à SmackDown, il a absolument rien à faire. Hein.
Ouais, c'est vrai qu'il tapait top dollar de temps en temps, là, mais bon, il avait rien à faire à SmackDown. Donc écoute, go, ça va lui donner en tout cas un os à ronger jusqu'à ce que une opportunité peut-être se présente pour attraper une ceinture, parce que pour l'instant, c'est difficile à envisager. On continue, et donc voilà les Viking Raiders qui débarquent pour un Open Challenge, et alors là, surprise, c'est la fête, c'est le retour du New Day. Xavier Woods et Kofi Kingston sont là pour répondre à l'Open Challenge. La foule est manifestement très contente de voir le New Day de retour. Moi aussi, plutôt content, je te cache pas. Et donc, Open Challenge assez rapidement expédié par le New Day qui gagne quand même en 5 minutes hein, avec ce joli enchaînement Trouble in Paradise et le Limit Break de Xavier Woods. Donc victoire. Les Viking Raiders, hein, après avoir pas vraiment soldé leur histoire avec American Alpha, hop, ils ont été mis aux toilettes, parce qu'American Alpha, tous ils sont passés à autre chose. Donc ça, il y a les Viking Raiders, ils ont fait le taf, on les reverra peut-être dans 6 mois. Et le New Day est de retour pour faire la loi sur la division tag team qui, ma foi, on aurait bien besoin parce que Sami Zayn et Kevin Owens, ils tournaient peut-être un petit peu en rond. Il y a les Street Profits qui sont partis sur autre chose. Là, je trouve que ça manquait, il fallait qu'il y ait un gros nom qui débarque, je trouve, pour remuer tout ça. Ce que ne manquera pas d'ailleurs backstage de rappeler le New Day, hein, parce qu'ils ont été interviewés juste après leur match par Jackie, la belle Jackie, et donc qui d'ailleurs c'était assez drôle parce que Jackie est assez jeune et pas là depuis très longtemps à la WWE, et donc il y avait une sorte de petite private joke en mode je sais pas si tu sais qui on est. Ils ont commencé à faire tout leur taunt habituel, le New Day, toutes leurs catchphrases, et c'était Jackie les connaissait pas toutes, donc c'était assez rigolo. Donc voilà, et puis donc le New Deck a dit voilà, on est là, on est de retour, et puis ça va chier, on est là pour remettre un petit peu d'ordre dans la division tag team. Donc voilà, moi je pense qu'elle en a bien besoin, cette division tag team. Toi, je sais pas ce que t'as pensé de ce retour du New Day.
Oui, bah, ça m'a fait plaisir. Après la division tag team, c'est vrai que finalement, en se projetant avec du recul maintenant, on s'était dit que c'est très bien que les titres quittent les Usos pour tomber sur des champions qui vont défendre les ceintures et puis pas être mobilés par les histoires de Bloodline, tout ça. Et puis au final, Sami Zayn et Kevin Owens, ça défend pas plus que les Usos, quoi. Donc
non, ça défend pas beaucoup. Et puis c'est surtout que c'est au-delà de la, ça défend pas beaucoup, ça fait pas. Je trouve qu'ils en ont pas fait grand-chose, quoi. Enfin c'est.
Non. Puis ils sont limite solo en fait. Et en plus avec Kevin Owens manqué blessé, enfin c'est.
Bah ouais. Ouais. Bon là de toute façon c'est malheureusement c'est pas de bol pour la tag team, mais presque avant qu'ils soient blessés, je trouve qu'il y avait quand même des critiques à adresser un peu à cette équipe qui.
Oui.
Enfin. En tout cas, à l'utilisation, peut-être aussi, parce qu'ils étaient plus utilisés un petit peu comme souvent comme pièces rapportées du main event, à faire des bouche-trous, des 3v3, des 4v4, à se greffer un peu à droite à gauche. Mais vraiment, une grosse rivalité. Ils n'ont pas eu de vraie rivalité pour leur ceinture depuis WrestleMania. Il y a eu quelques défenses contre Imperium, mais c'était quand même assez vite vu. Donc, le New Day va peut-être revenir pour un petit run. Moi, ça ne me déplairait pas.
Je pense qu'il y a. On en revient aussi des soucis des ceintures fusionnées, en fait. Parce que tant qu'elles sont fusionnées, ouais. C'est-à-dire que ça pénalise en plus les deux rosters, l'absence de champions vraiment actifs. Donc, on va espérer que le menu des soit là. Alors, c'est. À chaque fois que je les vois revenir, je me pose toujours la question de dire il manque comme sur Biggie, quoi. Les deux autres ont beau se blesser, revenir, Biggie revient jamais, quoi. Donc,
Et puis, est-ce qu'il va revenir un jour? Ça, c'est la grande question.
Ouais, je pense que la question, elle devient de plus en plus critique.
C'est vrai. Ça commence à être inquiétant. Et puis, en plus, il y a quelques news qui sortent qui sont pas très, très réjouissantes pour le pauvre Biggie. Donc, on sait pas. Mais bon. Comme tu dis, voilà, New Day, bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle quand même, mais manifestement, on a appris juste après que Sonya Deville s'était fait les croisés. Donc, il y a fort à parier que les ceintures vont devoir être à nouveau abandonnées. C'est vrai qu'il y a une sorte de malédiction un peu sur les ceintures tag team féminines, à tel point que, franchement, ils devraient quasiment les supprimer, ces ceintures, parce que ça n'a quasiment plus aucun sens. Parce que Liv Morgan et Raquel les avaient déjà lâchés à chaque fois. Enfin, Liv s'était blessée, Raquel s'était blessée. Enfin bref, c'est interminable. Il y a toujours, les championnes sont toujours blessées, j'ai l'impression. Donc, il y a quasiment, de toute façon, maintenant il y a plus d'équipe, hein, parce que il y a plus d'équipe. Il y a les petites jeunes, Katana Chance et Kayden Carter. Je crois que c'est peut-être la seule équipe qui reste dans la division. Parce que
et après, il y a des associations. sur bidon, quoi, avec Lenny qui
voilà, c'est ça.
Truc,
oui. Non, mais c'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'ils vont faire, parce que tu vois, là, s'ils sont blessés, il va falloir qu'ils lâchent leur ceinture. Alors, ils vont refaire un tournoi avec, encore une fois,
non,
plein
bah
de situations de merde. Bon, je
c'est
sais
surtout
pas.
Ça le problème, en fait. C'est surtout ça le problème, c'est que refaire des tournois à chaque fois, enfin, au bout d'un moment, je pense qu'ils n'auraient jamais dû la faire perdre, enfin, pas comme ça, du moins, à suite à la blessure de Liv Morgan, en fait. Et,
Ah
parce
oui.
qu'elle n'a pas été blessée longtemps. Hein. Donc, et le truc, c'est que si dès que tu as un blessé, tu dois faire perdre la ceinture, bah, effectivement, elle peut tourner vite, quoi. Et là,
Ouais.
bah,
Et
ouais, bah,
puis bah là,
c'est.
on n'a plus d'équipe, quoi. Il n'y a plus
Y
d'équipe.
a... Ouais, ça donne pas envie de la recréer, effectivement. Enfin, de la remettre libre à ceux qui veulent aller la chercher, quoi. Ou alors, il la renvoie à NXT. Mais
Ouais,
bon.
il devrait la balancer à NXT, franchement, et puis dire, je sais pas, Triple H, vas-y, nous sort une petite ceinture de mid-card féminine, et puis basta, j'en sais rien, s'ils veulent absolument garder un titre pour la low-card des filles, entre guillemets, mais les tag teams, ça a pu, enfin, tout ça n'avait aucun sens depuis plusieurs années déjà, mais voilà, c'est vraiment terrible. Surtout qu'en plus, il semble se passer un petit peu des choses côté... côté féminin, à Raw, puisque alors on va arriver au main event de la soirée. Alors pourquoi je vous parle des filles? Parce qu'il s'est passé un petit truc pas si anodin que ça lors des entrées, puisque donc main event, hein, je vous rappelle, Judgment Day, les gars du Judgment Day contre Cody Rhodes, Seth Rollins et et c'est vrai qu'on avait oublié de parler de ça, mais Cody Rhodes, Seth Rollins et pas Sami Zayn, Shinsuke Nakamura. Et oui, c'est le troisième larron de ce main event. Pourquoi? Parce que un peu plus tôt dans l'émission, eh ben, il y a J.D. McDonagh qui a fait du bruit cette semaine. Il a fait du bruit. Alors, il a fait du bruit deux fois. Déjà parce qu'il y a eu un petit segment backstage cette semaine entre Finn Balor et lui qui étaient en train de discuter. Le Judgment Day qui est arrivé à ce moment-là. Parce que ça, c'était les retombées un petit peu de l'introduction, les tensions entre Damian Priest et Finn Balor. Damian Priest qui est venu un petit peu dans la face de Finn Balor, il dit ah, c'est quoi ton problème? T'es frustré. Finn Balor qui dit mais non, c'est quoi toi ton problème? Enfin bref, redite un petit peu de ce qu'il y avait eu déjà avant Money in the Bank, d'une certaine manière, avec la friction, la friture sur la ligne entre les deux. Rhea Ripley qui arrive entre deux, encore une fois, vraiment, pour le coup, vraiment redite de ce qu'il y a eu il y a un mois et demi. Hein. Je dis, oh, les gars, attendez, ça suffit. On veut tous la même chose. On veut que le titre, il aille dans le Judgment Day. Donc arrêtez de vous fâcher. Ça rime à rien. Vous êtes des gamins et tout. Bon, vous êtes cool. Encore une fois, c'est vraiment, j'avais l'impression de revoir le même segment. Il y a Damien Priest qui dit, ouais, ok, c'est cool. Finn Balor qui dit, ouais, ok, tranquillo, c'est cool et tout. On sent que c'était un c'est cool moins clair qu'il y a un mois et demi quand même. Hein. Mais bon, soit. Et J.D. McDonagh qui, donc Damien Priest qui s'en va, Finn Balor qui, je sais plus si Finn Balor s'en va, mais J.D. McDonagh qui se permet d'intervenir, entre guillemets, et puis qui dit à la fin du segment, qui dit « Ouais, vous savez, moi je pense que vous devriez vous débarrasser de cette mallette, c'est cette mallette qui fait du mal et qui est entre vous deux, et c'est cette mallette qui cause des problèmes. » Bon, premier petit
dépassement. Il dit ça à Priest, ouais. Et t'as Baylor qui est encore là, mais il dit ça à Priest. Et après, il parle lui avec Baylor.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, premier petit dépassement de fonction et première petite friction. Et donc, pourquoi on continue de parler de J.D. McDonagh? Parce qu'en fait, J.D. McDonagh, il est arrivé un peu plus loin dans l'émission parce qu'il a tabassé Sami Zayn. Alors voilà, agression commandée par le Judgment Day, on imagine, évidemment. Il est allé attaquer l'épaule de Sami Zayn et donc l'a blessé, manifestement. Donc, est-ce que c'est une autre... Parce que c'est une façon un peu kayfabe d'écrire aussi Sami Zayn un peu hors de nos écrans, vu que Kevin Owens s'est blessé, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, pour le main event de ce soir, ça a des implications concrètes, puisque Cody Rhodes et Seth Rollins se retrouvent tous les deux, donc ils cherchent un troisième partenaire, et donc c'est Shinsuke Nakamura qui s'est présenté, qui s'est présenté spontanément d'ailleurs, il a dit « Attendez, moi les gars, si vous cherchez quelqu'un, je suis chaud, je veux bien vous aider. » Donc bon, Cody Rhodes, lui, de mémoire, je crois qu'il accepte assez vite, Seth Rollins... Seth Rollins lui dit bon écoute il a quelques doutes mais il se dit écoute je te connais
non, je crois que Cody Rhodes il y a Seth Rollins je te laisse gérer un truc comme ça
ah oui voilà Cody Rhodes je te laisse gérer donc Seth Rollins qui est pas forcément voilà qui dit pas un oui franc et massif mais qui dit voilà on a beaucoup de passifs tous les deux je sais grosso modo je te connais je sais à quel point t'es dangereux et que tu peux être bon allez pour ce soir vas-y je te fais confiance viens avec nous quoi donc c'est parti.
Ouais, j'ai trouvé comme Seth Rollins comme plus emballé à avoir Nakamura avec lui que Cody Rhodes en fait. Hein.
Tout à fait, absolument. Ouais, on sent que la tension est toujours est toujours vive avec, avec Cody Rhodes. Et donc bah, c'est parti pour ce main event. Sauf que c'est parti, voilà, je mentionnais les filles, parce que pendant les entrées, le Judgment Day arrive avec Rhea Ripley. Et alors là, Rhea Ripley se fait attaquer par une horde de filles, puisque c'est Raquel Rodriguez, Indy Hartwell et Candice LeRae qui arrivent toutes pour attaquer Rhea Ripley, et donc qui commence à la tabasser à 3 contre 1. Donc Rhea Ripley qui essaie de se débattre tant bien que mal, les officiels arrivent, tout le monde est là pour les séparer, et donc ça, bref, Rhea Ripley, d'ailleurs qui, c'est marrant parce qu'elle perd sa chaussure et elle attrape sa chaussure, pour, du coup elle la lance, elle essaie de la lancer sur Candice LeRae, là c'est le gros bordel, avant le match. Et donc je mentionne ça, et d'ailleurs on peut avoir ton avis sur la question. J'ai trouvé ça assez sympa parce que, bon, déjà d'une, il se passe enfin quelque chose un petit peu avec Rhea Ripley et la division féminine. Et puis c'est d'une certaine manière une suite logique assez bien fichue du comportement de Rhea Ripley depuis des semaines, et assez bienvenue. C'est quelque chose qu'on voit assez rarement, de voir des faces entre guillemets se révolter en groupe. Comme ça sur une île, parce que c'est vrai que, bah voilà, Rhea Ripley, elle fait la pluie et le beau temps depuis des semaines et des semaines, voire des mois et des mois. Elle est pas du tout inquiétée, elle a quasiment pas besoin de défendre son titre, pas de rivalité. Dès qu'il y a un semblant de rivalité, elle agresse en backstage et elle blesse, et hop, terminé, elle règle tous ses problèmes comme ça. Et donc, bah là, voilà, on a une sorte de révolte un peu du vestiaire, enfin ce qu'il en reste, et pour aller attaquer, donc Rhea Ripley qui, bah, peut-être va enfin au devant de quelques petits problèmes de son côté. Et je trouvais que c'était assez bienvenu comme petite altercation.
Ouais, je suis. Alors, je l'ai interprété différemment, moi, le truc, parce que le timing du segment. Alors, on avait déjà eu en fait Raquel Rodriguez un peu plus tôt qui avait été en vestiaire en lui disant que bah, elle n'était pas clean pour affronter Rhea Ripley. Et qui donc avait comment dire, elle était un peu déçue, puis tu avais donc Indy Hartwell et Candice LeRae qui l'avaient soutenue. Et là-dessus, tu as comment ça s'appelle, donc l'intervention de l'attaque de Raquel Rodriguez, mais c'est Raquel d'abord qui attaque Rhea Ripley seule, et ensuite quand se fait quand le combat barre et qu'il faut les séparer, là t'as les deux filles qui arrivent en fait. Donc moi j'ai plus l'impression que c'est Raquel en leader. Qui affronte qui va chercher les noises à Rhea Ripley pour vraiment une affiche qui s'annonce, et les filles à la limite qui rejoignent la face, effectivement comme tu dis, en disant bah ok, bon, l'autre on va réussir, on va arrêter de se laisser soumettre par elle. Et effectivement elles ont un peu plus attaqué que d'habitude, où d'habitude ça se laisse un peu plus faire. Là elles ont pas juste protégé Raquel, elles ont clairement attaqué Rhea Ripley. Donc ça, c'est une évolution, ça, à ce niveau-là. Mais pour moi, le projet principal, c'est Raquel versus Rhea.
Oui.
Et le reste, c'est vraiment très, très accessoire. Peut-être que du coup, elles vont servir de petits bois le temps que Raquel soit disponible. Mais bon, à voir.
À mon avis, en effet, je pense que sur les prochaines semaines, il y a fort à parier qu'on ait Rhea Ripley qui casse en deux à Indy Hartwell ou Candice LeRae. Histoire d'eux. Mais en effet, je suis d'accord avec toi, le endgame, hein, c'est clairement Raquel Rodriguez, Rhea Ripley. C'est juste que voilà, ça m'a fait un peu sourire et j'ai trouvé ça appréciable, on va dire, qu'il y ait des faces qui tabassent, on va dire, plusieurs.
Qui se révoltent un peu.
Qui se révoltent un peu, que ce soit pas des carpettes, quoi, et qui se révoltent un peu à plusieurs contre une île, parce que c'est assez rare. Et c'est justifié pour le coup, parce que voilà, Rhea Ripley, elle fait un petit peu ce qu'elle veut depuis un petit peu trop longtemps. Donc voilà, en tout cas c'était la petite péripétie du début de match, et puis bah écoute, après on enchaîne sur le 3v3. Bon, je vais pas vous, là non plus je vais pas vous faire le play-by-play, parce qu'on a eu, on va dire, un 3v3 de main event classique de la WWE, hein, avec le démarrage des faces, la domination des heels, avec le babyface en péril qui finit par être sauvé, les hot tags, patati patata, vous connaissez la chanson, le défilé des finishers, et à la fin, juste pour le finish, donc c'est Sami Zayn qui finit par intervenir. Parce qu'il s'en, parce qu'il vient un petit peu se venger, quoi, grosso modo. Hein. Alors, il vient pas se venger de JD McDonagh, il vient se venger d'une certaine manière du Judgment Day, hein, qui sans doute avait commandé l'attaque, même s'il n'y a pas eu de, suis pas sûr qu'il y ait une confirmation officielle. Et donc Sami Zayn qui avait un gros bandage sur son coude et sur son épaule qui avait été attaqué, donc qui arrive, qui attaque Damien Priest, ce qui permet à Seth Rollins de balancer un super kick dans la mallette de Finn Balor, enfin de Damien Priest, mais qui était tenu à ce moment-là par Finn Balor, qui l'avait devant le visage. Donc boum, super kick. Donc pauvre, décidément Finn Balor et les mallettes, c'est une grande histoire d'amour. Et Seth Rollins qui à chaque fois trouve le moyen d'en profiter. Et juste derrière, Crossroads sur Finn Balor pour le compte de 3. À noter, attention, hein, que c'est Cody Rhodes hein, qui fait le tomber sur Finn Balor et non pas Seth Rollins. Encore une fois, peut-être un énième. Tintin, ouais, encore Crossroads qui est encore Cody Rhodes qui tire la couverture et donc bah voilà, écoute, victoire des Babyface, c'est la fanfare, c'est les trompettes, la musique de Cody Rhodes qui retentit. On se regarde un peu en mode tu sais, Cody, alors je sais plus ta petite, il se regarde, c'est Seth Rollins qui est pas forcément très très content, mais en même temps Cody Rhodes qui dit attends, on a gagné, regarde, on a gagné. C'est toujours ce côté ravi de la crèche de Cody Rhodes là qui dit attends, il y a pas de problème, regarde, on a gagné. C'était comme dans les vestiaires un peu plus tôt. Et puis bah donc voilà, ça se prépare un peu à monter sur les deux turnbuckles, que c'est Rollins qui dit ok, allez, vas-y, on va célébrer. Et là, c'est le coup de théâtre. Shinsuke Nakamura qui envoie un Kinshasa par derrière sur Seth Rollins pour terminer ce show. Et c'est Shinsuke Nakamura donc, qui s'en va tout tranquille. Cody Rhodes qui regarde ça d'un air un petit peu tout penaud. Et Nakamura qui, voilà, en se frottant les mains, repart tranquillement, le visage un peu fermé sous les huées de la foule. Et c'est ainsi que se conclut cette émission sur ce turn officiel, là pour le coup, voilà, de Nakamura. Et surtout sur une perspective toute nouvelle, puisqu'on nous teasait. Des retrouvailles entre Cody Rhodes et Seth Rollins, mais finalement, il y a un autre caillou qui vient de se mettre dans la chaussure de Seth Rollins en la personne de Shinsuke Nakamura.
Ouais, décidément, il s'en sort pas, le pauvre Rollins. Bon, je t'avouerai, j'étais pas du tout surpris, moi, parce que quand Nakamura avait accepté, enfin, proposé son offre plutôt à Seth Rollins, il y avait ce petit regard sournois, là, tu t'es dit, oula, là, c'est pas gratuit, cette affaire. Et puis, bon, bah, ça s'est vite réglé. Turn de Nakamura confirmé, bon, on s'y attendait hein, par rapport à toutes les dernières semaines qui s'étaient passées où il était de plus en plus instable. Pour le reste, bah, le Judgment Day finalement a. Bah, je pense que du coup, ils vont servir à régler leurs affaires de leur côté, parce que là, si on part sur un Nakamura Rollins, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout le Judgment Day qui est dans l'affaire, est-ce que du coup, ils vont juste être en sommeil et régler leur truc de leur côté, puis avant de rejaillir sur la scène une fois le cas Nakamura réglé, parce que je vois pas Nakamura faire une longue rivalité avec Rollins. Bon, à voir. En tout cas, c'était plutôt bien mené et plutôt bien construit sur la montée en pression du show, d'avoir mis des fausses pistes partout pour au final finir sur la vraie piste de Nakamura le trade, qui était finalement la plus obvious de toutes.
Yes. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Mais en effet, comme tu l'as dit, la conséquence, entre guillemets, c'est... C'est peut-être que on va partir sur un arc plus Judgment Day et qu'on va laisser peut-être Seth Rollins un petit peu de côté dans cette histoire et régler déjà les histoires internes avant de poursuivre les velléités de ceinture de soit de Finn Balor soit de Damien Priest. Donc on s'oriente vers un nouveau programme écoute, c'est pas pour me déplaire, en tout cas ce petit teasing. Je pense que Seth Rollins et Shinsuke ont largement les moyens de nous faire quelque chose de très cool dans une défense de transition, comme on pourrait dire. Voyons voir ce que tout ça va nous annoncer. En tout cas, c'est ainsi que se termine ce Monday Night Raw.
Mais attends, quid de Cody par contre dans l'affaire, hein, parce que lui.
Ah oui. Oui, quid de Cody, tu as raison. Oui, tout à fait. Tu as raison. Quid de Cody, mais là c'est vrai que du coup ça va manquer de programme pour lui si la place est prise, ou est-ce que bah encore une fois dans son style caractéristique il va prendre toute la place et du coup bah rester un petit peu dans l'histoire des deux autres, je sais pas, ou essayer de les réconcilier comme il avait fait à l'époque avec
Sami Zayn et Kevin Owens.
On ne sait pas. En tout cas,
le relou, Cody, quand même.
Ouais, Cody le relou.
Trouve-toi tes vraies rivalités.
Exact. Bon, en tout cas, voilà, c'est ainsi que se termine ce Monday Night Raw. C'est l'heure du mot de la fin. Hein. Le top, le flop et la note. C'est parti.
C'est parti, mon kiki. Le top, à quoi on pourra le donner on va pas. Je vais le donner à la victoire de Gable dans le four-way, qui était quand même plutôt sympathique à suivre. Un bon match et puis un bon vainqueur. Le flop, j'hésite à le mettre à LA Knight en fait, parce que ça promet en dessous, et je me dis que ça serait peut-être un peu vache. Mais je vois pas d'autres qui étaient en dessous. Le Skull Show était quand même vachement propre. Hein. Il n'y a vraiment pas eu trop de d'écueils. Je vais le mettre à LA Knight, tant pis, hein, je vais rester sur ma première idée. Ma note, comme je dis, un show propre, pas trop d'écueils, pas trop non plus de surprises. Hein, c'était vraiment, ça tournait vraiment assez facilement. Je vais donner un 3,25 parce que c'était comme un poil, un bon show avec des petits bonus, avec notamment la trahison finale, le nouveau challenger titre intercontinental, les filles qui se rebellent. Donc il y a des petits plus par rapport à ce qu'il y a d'habitude, donc on va mettre à 3,25.
Allez, ça me paraît pas mal tout ça. 1,325 pour ce Raw. Bah écoute, moi je suis globalement, j'ai eu l'impression, je pense que je l'ai dit sur le Discord, j'ai pas vu de vrai temps faible en fait dans ce Raw. Je suis assez surpris. D'ailleurs, j'étais assez surpris à l'issue du visionnage presque. C'était déjà fini. J'ai pas eu ce sentiment de longueur sur ce Monday Night Raw, ce qui est déjà un bon signe. Et c'est assez rare sur 3 heures quasiment d'émission. Je me dis tiens, il y avait j'ai trouvé qu'il n'y avait vraiment pas de segment trop à jeter. Je trouvais que c'était un Raw assez focus, pas trop de bullshit, pas trop de segments. C'est-à-dire que même chez les filles, c'était intéressant. C'est-à-dire cette passe d'armes entre Becky Lynch et Trish et Zoé Stark. Alors je pense que l'absence, le fait qu'il n'y ait pas eu Trish Stratus, ça a pas mal aidé.
Ni Trish ni Ronda, tant mieux.
En fait, vraiment les maillons faibles. Hein. Ce qui s'est passé un peu avec Rhea Ripley, on en a parlé, c'était cool. Donc ça, j'ai bien aimé. Et puis globalement, après, chez les mecs, je trouve que tous les programmes qui se lancent un petit peu sont assez enthousiasmants. Donc je vais commencer par ma note. J'avais prévu de mettre un 4, écoute, tu vois, à ce Raw. Donc c'est quand même, je pense que ça doit être un de mes Raw préférés de ces dernières semaines. Rien d'exceptionnel, hein. J'ai pas sauté au plafond à aucun segment, mais voilà, j'ai passé 3 heures, en tout cas très très sympa. Moi, mon top, en fait, j'ai envie de faire un truc un peu spécial et de revenir un peu sur cette promo parce que je vais donner mon top et mon flop au même segment et c'est cette promo d'LA Knight en fait et pour les raisons qu'on a déjà évoquées, on va pas revenir dessus parce qu'on en a parlé très très longtemps de cette promo, mais voilà, top pour toutes les perspectives que ça ouvre, le fait d'avoir eu LA Knight à Raw, qu'il ait fait ce premier segment micro, qui a quand même, sur le papier, c'était un super segment, la foule était à fond, feu de contre le Miz, qui est le taulier, un peu le gatekeeper, je me dis, c'est un super programme pour démarrer quelque chose de sympa avec lui. Et en même temps, flop, parce que le baptême du feu de cette présentation de personnage, ternit un tout petit peu mon enthousiasme, ou en tout cas me donne pour la première fois, on va dire, des motifs un petit peu d'inquiétude légitime sur le long terme, si LA Knight, c'est ça. En effet, une fois passé la folie des débuts, parce qu'on va pas se mentir, il y a aussi un effet forcément un peu de folie, même si je reste absolument convaincu que il y a quelque chose d'inexplicable qu'il a en lui qui fait que si on s'en sert bien, il a le potentiel pour être vraiment, vraiment faire un run vraiment très très stylé. Mais voilà, il y a quand même des motifs d'inquiétude dans son personnage, dans son storytelling qui va falloir peut-être corriger. Mais est-ce qu'il en a envie ? C'est autre chose, ça. LA Knight, c'est aussi ça. Donc on verra. Voilà, top et flop à un peu pour le même segment, mais globalement un excellent Raw. Voilà, on a tout clé.
Bien mené.
une affaire bouclée, c'est l'heure de l'autopromo. Mes chers ketchup, peuple de ketchup, donc bah écoutez, comme d'habitude, vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de podcast, hein, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Ocha, enfin toutes les plateformes, toutes vos bonnes crèmeries, vous avez l'habitude. Vous nous retrouverez également sur YouTube en vidéo pour les épisodes de podcast sur la chaîne Ketchup. Sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, @ketchupcdc. Et voilà, je crois que je n'oublie rien. Évidemment, venez discuter avec nous sur le Discord. Ah oui. Le lien du Discord sera dans la description de l'épisode du podcast et de l'épisode sur YouTube. Venez rejoindre, venez discuter avec nous. C'est l'occasion de jouer à notre grand concours des pronos ou venir nous raconter tout un tas de choses sur la WWE, mais pas que. Et puis voilà, merci beaucoup, Papy, pour cet épisode.
Ben, merci à toi de m'avoir accueilli, d'avoir drivé ça de main de maître.
Et puis, peuple de ketchup, je vous souhaite à tous, parce que je pense que moi, je vais faire quand même à un moment, il va falloir aller siroter des cocktails au bord de la piscine, hein, donc on va faire une petite pause. Je vous souhaite à tous un bon mois d'août, une bonne semaine pleine de catch, et puis, voilà, ciao ciao tout le monde.
Salut à tous.
Irem va revenir. Je sais plus quand est-ce qu'il revient.
Il va sortir de sa piscine à jour, Irem.
Ouais, lui, c'est ça. T'sais, il utilise la caisse de ketchup chaque année. Hein, c'est toujours le
seul. Mais il nous arnaque encore une fois. Hein.